Le mauvais génie, chapitre 20. L'engagement. Julien avait enfin rempli son engagement avec M. Georgey. 3 mois après la fameuse foire qui avait été témoin de si fâcheux événements, Frédéric put reprendre son travail et Julien commença le sien chez M. Georgey. Son nouveau maître le fit aller à l'école. Julien avait de la mémoire, de la facilité, de l'intelligence et de la bonne volonté. Il apprit en moins d'un an à lire, à écrire, le calcul, les premiers éléments de toutes les choses que M. Georgey voulait lui faire apprendre. Tout le monde était content de lui. Il aidait à tout. Il était actif, complaisant, prévenant même. Il servait M. Georgey avec un zèle et une fidélité qui étaient vivement appréciés par le brave Anglais. Bien des fois, M. Georgey avait voulu récompenser généreusement Julien de ses services. Julien avait toujours refusé, et quand son maître insistait, sa réponse était toujours la même.
« Si vous voulez absolument donner, monsieur, donner à Madame Bonnard ce que vous voulez me faire accepter, et ce que je suis loin de mériter. »
« Very well, my dear. Moi porter à Madame Bonnard. »
Et il remettait en effet à Madame Bonnard des sommes dont nous saurons plus tard le montant, car M. Georgey lui avait défendu d'en parler, surtout à Julien, qu'il aimait et qu'il voulait mettre à l'abri de la pauvreté.
« Il refuserait, et moi voulais pas les abandonner sans fortune. Moi voulais Julien manger des turkeys. »
Un jour, il trouva Madame Bonnard seule, pleurant au coin de son feu.
« Quoi vous avez, pauvre Madame Bonnard? Pourquoi vous faites des pleurements? »
« Ah, monsieur, j'ai bien du chagrin. Je ne peux plus me contenir. Il faut que je pleure pour me soulager le cœur. »
Pour quelle chose le cœur à vous était si grosse?
Parce que, monsieur, mon mari et Frédéric ne peuvent plus se supporter depuis ce jour terrible où vous avez empêché un si grand malheur. Le père ne peut pas voir le fils sans qu'il se sente pris d'une colère qui devient de plus en plus violente. Et le fils a pris son père en aversion, sans pouvoir vaincre ce mauvais sentiment. Je suis dans une crainte continuelle de quelque scène épouvantable. Ce matin, ils ont eu un commencement de querelle que j'ai arrêté avec difficulté. Frédéric voulait s'engager comme soldat. Le père lui disait qu'un voleur n'était pas digne d'être militaire. Ils se sont dit des choses terribles. J'ai heureusement pu les séparer en entraînant Frédéric. Mais si une chose pareille se passait en mon absence, vous jugez de ce qui pourrait en arriver. »
L'Anglais ne répondit pas. Il réfléchissait et la laissait pleurer. Tout à coup, il se leva et se plaça devant elle, les bras croisés.
« Madame Bonnard, avez-vous croyance, c'est-à-dire confidence, à moi ?»«
Oh oui, monsieur, toute confiance, je vous assure. »«
Mille merci, Madame Bonnard. Alors vous tous, sauvés et satisfaits. » »«
Comment? Que voulez-vous faire? Comment empêcherez-vous le père de rougir de son fils et le fils de garder rancune à son père? » «
Je pouvais très bien vous voir bien vite. » «
Mais en attendant, s'ils se reprennent de querelles? » «
Reprendre rien, du tout rien. Où il est, Frédéric? » «
Il bat le blé dans la grange. » «
Très bon, très bon. Je voulais voir lui vitement. Vous appelez Frédéric. »
Madame Bonnard, qui avait réellement confiance en M. Georgey, se dépêcha d'aller chercher Frédéric et l'amena dans la salle.
« Frédéric, il y avait 2 années, toi pas heureuse. M. Bonnard, pas heureuse. Madame Bonnard, pas heureuse. Moi voulais pas. Moi voulais tous heureuses. toi venir avec moi, toi prendre logement avec moi, et moi t'arranger très bien. Bonsoir, madame Bonnard. Demain je dirai toute mon intention. Viens, Frédéric, viens vitement derrière moi.
Monsieur Georgey sortit. Frédéric, très surpris, le suivit machinalement sans comprendre pourquoi il s'en allait. Madame Bonnard, non moins étonnée, le laissa partir sans savoir ce que voulait en faire monsieur Georgey, mais fort contente de le voir quitter la maison et très assurée que c'était pour son bien. En route, monsieur Georgey expliqua à Frédéric, tant bien que mal, ce qu'il venait d'apprendre.
Il fallait pas rester là, Frédéric. Il fallait devenir soldat. Une bonne et brave militaire française. Toi avais envie. Les pères voulaient pas. Moi j'ai voulais et toi voulais. Toi demeurer avec petite Julienne. Moi écrire les lettres pour toi, faire un bon engagement. Je connaissais un brave colonel. Moi lui faire recommandation pour toi. Quand le colonel dira yes, j'ai enverré toi avec des journées pour toi être heureuse là-bas. Tu voulais? Dis si tu voulais. Tu avais 18 ans, tu pouvais.
J'en serais bien heureux, monsieur, mais mon père ne voudra pas. Il me refusera la permission.
Je disais, tu avais 18 années. Je disais, tu pouvais sans permission. Dis si tu voulais.
Oui, monsieur. Je veux. Je le veux bien certainement. Je ne peux plus vivre chez mon père. J'y suis trop malheureux. Il ne me parle que pour m'appeler voleur, coquin, scélérat. Il me fait des menaces terribles pour m'empêcher de recommencer, dit-il. Ma pauvre mère pleure toujours. Mon père la gronde. La maison est un enfer.
C'était mauvais, un enfer. Il fallait un paradis, et moi les voulais. Toi devenir un brave militaire. Toi gagner les croix ou les médailles, et toi revenir toute glorieuse. Les papas devenir glorieuses, la maman fou de bonheur, et toi contente et honorable.
Merci, monsieur, merci. Depuis plus d'un an, je mène la vie la plus misérable, et c'est à vous que je devrais le bonheur.
Monsieur Georgey regardait avec satisfaction Frédéric, dont les yeux se remplissaient de larmes de reconnaissance.
C'était très bien, my dear. Toi restais encore bonne créature. Alcide, il était parti. Toi jamais voir cette coquine, cette malhonnête. C'était très bien.
Monsieur Georgey rentra avec Frédéric.
Caroline, Frédéric prend logement ici. Lui restez une semaine. Vous préparez une couchaison.
Mais monsieur, je n'ai ni chambre ni lit à lui donner.
Vous cherchez dans les bourgs vitement.
Mais monsieur, personne ici n'a de lit à prêter.
J'ai demandé pas prêter, j'ai demandé acheter. Allez vitement acheter les lits de la coquine Alcide.
Combien faudra-t-il le payer, monsieur?
Caroline, vous mettez en colère, moi. Payez quoi demandera les coquines des pères. Allez vitement, j'étais tout en bouillonnement.
Caroline disparut pour exécuter l'ordre de monsieur Georgey. Elle savait que la contrariété le mettait dans des colères terribles et, malgré qu'il n'eût jamais frappé, ni même injurié personne, elle avait une grande frayeur de ses yeux étincelants, de ses dents serrées, de ses poings crispés, de ses mouvements brusques, des coups qu'il frappait sur les meubles. Le marché fut débattu et pas conclu.
« Pour qui donc demandez-vous le lit d'Alcide ?»«
C'est pour quelqu'un qui est pressé. »«
Il ne vaut pas grand-chose, je vous en préviens. Il n'est pas neuf, il s'en faut. »
Aussi, je ne pense pas que vous me demandiez un grand prix. Vous le donnerez bien pour 20 à 25 francs.
Ce n'est guère 25 francs. Mais sans couverture, alors.
Que voulez-vous que nous fassions d'un lit sans couverture?
Nous, dites-vous? C'est donc pour vous, c'est-à-dire pour votre maître?
Certainement. Et il est pressé.
Ah, c'est pour monsieur Georgey. Et il est pressé. Il m'en donnera bien 100 francs.
100 francs pour une patraque de nid, 4 planches et une méchante paillasse. Vous plaisantez, père Borel.
Je ne plaisante pas. 100 francs ou rien.
Caroline hésita. Si elle revenait sans lit, elle amènerait une crise de colère. D'un autre côté, payer 100 francs, un vieux lit vermoulu qui se composait d'une paillasse, d'un traversin et de 2 mauvaises couvertures, c'était par trop se laisser duper.
Ma foi non, c'est trop fort aussi. Gardez votre lit. J'en aurai un ailleurs.
Et Caroline sortit.
Mademoiselle Caroline, Mademoiselle Caroline, revenez donc. Je le donne pour 80, pour 60, pour 40. Revenez donc. Ne soyez pas si prompte. Je vous le porterai et je vous le montrerai par-dessus le marché.
Caroline revint sur ses pas.
Apportez-le dans ce cas et dépêchez-vous. Monsieur est impatient.
Le temps de démonter le lit et je serai chez vous.
Caroline rentra triomphante. Elle raconta à son maître comment elle lui avait fait gagner 60 francs. Monsieur Georgey rit de bon cœur.
Tenez, Caroline, voilà 100 francs.
C'est 40, monsieur, puisque j'ai marchandé.
Vous faire marchandement pour vous, moi marchandais pas, jamais.
Mais monsieur, c'est 60 francs que vous me donnez, c'est trop.
J'ai disais, c'était pas trop pour récompensement. L'honnête, c'était rare, beaucoup. Je payais cher les rares. Et 60 francs, c'était pas trop. Moi pas voulais voir cette malhonnête. Faisais tout l'affaire tout seul.
Caroline se retira rouge de joie, avec force remerciements et révérences.
C'était assez, my dear. Allez-vous là-bas, Frédéric aussi là-bas. Quand petite Julienne est retournée, vous direz à lui monter.
Ils s'arrangèrent de leur mieux en bas. Caroline fit placer le lit de Frédéric dans un cabinet noir près de la cuisine. Ce n'était que pour peu de jours. Il déclara s'y trouver très bien. Une heure après, quand Julien monta chez M. Georgey, il le trouva écrivant une lettre.
Ah, petite Julienne, j'ai voulu savoir tes connaissances, j'ai voulu voir tes écritures.
Julien lui fit voir ses cahiers qu'il apportait de chez le maître d'école. M. Georgey les examina.
C'était très parfaitement bien. L'écrivement, il était très joli. Les dessinations, il était fort régularisé. Les calculements, il était parfaitement exactement.
C'est que voilà plus d'un an, monsieur, que je prends des leçons.
Et je voulais toi prendre une année encore, et alors toi pouvais retourner avec Master et Madame Bernard. Ça était mieux que faire des dessinations, des fabrications comme je voulais. Eux tout seul, tout triste, eux t'aimaient beaucoup fort. Toi heureuse chez Madame Bernard, moi laissée à toi argent. Toi pas être en charge, mais en richesse. Tu devenais rouge, tu étais contente?
Oui, très content, monsieur. Mais vous, monsieur, que j'aime et auquel je dois tant, il faudra donc que je vous quitte?
Oui, my dear. Moi avoir fini ici l'établissement du fabrication. Moi faisais pour m'amuser, pour voir les pays, pour faire des progressions des fabrications dans les France. Moi étais très riche, très fort riche. J'avais pas besoin pour moi. Toi avoir instruction assez dans une année encore. Moi laisser à Madame Bernard argent pour ton vivotement et pour ton établissement.
Je ne sais comment vous remercier, monsieur, de toutes vos bontés pour moi. Je voudrais ne jamais vous quitter, monsieur. Je voudrais bien aussi rentrer chez monsieur et Madame Bernard, si bon pour moi. Mais Frédéric, monsieur, il ne m'aime pas beaucoup, vous savez. Il ne sera pas content que je rentre chez lui.
Frédéric, il avait quitté chez lui. Il se faisait soldat français. Il était dans les bars chez Caroline. Va demander explication à lui. »
Julien, surpris de savoir Frédéric chez M. Georgey, et n'osant le questionner à ce sujet, descendit dans la salle à manger et y trouva Frédéric seul. Caroline s'occupait du ménage. Julien apprit alors ce qui s'était passé le matin entre M. Bonnard et son fils. Il comprit les terreurs de Mme Bonnard et le moyen qu'avait trouvé M. Georgey pour les faire cesser.
« Mais as-tu réellement envie de t'engager, Frédéric ?»«
C'est le seul moyen pour moi d'échapper au mépris et à la colère de mon père. Si tu savais comme je suis malheureux depuis près de 2 ans que j'ai repris mon travail avec mon père. J'ai fait de bien grandes fautes, c'est vrai, mais je les ai tant regrettées. J'en ai un si grand chagrin que mon père aurait dû avoir pitié de moi et me les pardonner comme a fait ma mère. Quand je serai soldat, on ne pensera plus à moi. Et si j'ai le bonheur d'être tué dans un combat, on me pardonnera peut-être. J'ai été voir plusieurs fois notre bon curé. Il a cherché à me consoler. Il trouve que je ferais bien de partir pour l'armée. »
« Je trouve aussi que ta pensée est bonne. Mais que deviendront tes pauvres parents, ta pauvre mère surtout ?»«
Tu leur resteras, Julien. Ils t'aiment beaucoup, et ils ont bien raison. Ah, si j'avais fait comme toi, si j'avais repoussé les conseils de ce méchant Alcide, si je t'avais écouté. »
Frédéric tendit la main à Julien, qui la serra dans les siennes.
« Mon cher Julien, j'ai été jaloux de toi parce que tu étais bon. Je t'ai détesté parce que tu avais refusé de faire comme moi. Pardonne-moi, Julien. Sois mon ami, mon frère. Je t'aime à présent. »
Julien se jeta dans les bras de Frédéric.
« Oui, Frédéric, je suis ton ami, ton frère. Je garderai ta place pour ton retour. »
Ils causèrent longtemps encore. Frédéric sentit son cœur soulagé après cette conversation. Sa tristesse se dissipa et il se raffermit dans ses bons sentiments. Tous deux servirent M. Georgey pendant son dîner, et tous deux s'efforcèrent de lui témoigner leur reconnaissance parmi le petit soin que M. Georgey recevait avec plaisir et affection.